Bonjour. Vous écoutez France Inter, 15h03.
Chers amis, bonjour, c'est Nicolas Stoufflet pour le jeu des 1000 euros. Rendez-vous pour des sélections et des enregistrements aujourd'hui mardi en Indre-et-Loire à la Chapelle-sur-Loire à 18h30 et demain mercredi dans les Deux-Sèvres à Bressuire à 20h30. À très bientôt.
Cette semaine, dans le pont des artistes, Isabelle Dordain reçoit Johanna.
Au moment où l'une s'apaise, l'autre s'embrase comme jamais. Elle regrette, elle promet.
Attire d'elle un vol d'oiseau.
Soane.
Sous l'étincelle, étonne-moi.
Je suis un CRS mélomane.
Et Erwan.
Un amoureux de jeune retraite.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr à la page du Pont des Artistes. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. France Inter, la différence.
Eh ben on y vient, c'est la bassiste juste avec Daniel Mermet. Bah oui.
Salut Daniel, salut à tous, c'est Dominique de Bayeux. Vous avez entendu le président déjà sorti ce matin? Il nous a rejoué Calimero. Au début, il paraissait calme, posé, avec une petite voix, mais à l'intérieur, ça sentait la cocotte minute, prête à péter à la figure des journalistes, surtout celle de Pascal Clark. Depuis ce matin, elle sait comment elle s'appelle. Avec les questions des auditeurs, il est retombé dans ses travers, surtout quand quelqu'un lui a dit qu'il dégage. Alors là, c'était l'insulte suprême. A-t-il déjà oublié le mémorable « casse-toi pauvre con » ? Sortant de la bouche du président, ce propos ne peut pas être une insulte. Par contre, un simple citoyen lambda, c'est une autre affaire. En ce qui concerne le temps de parole, je croyais qu'il était équitable pour les 10 candidats. Je suis surpris que Patrick Cohen ne lui ait pas coupé le sifflet plus souvent. Notre petit Calimero national intervenait tout le temps. Le journal de 8h passe à 8h03, pendant lequel il est intervenu. La revue de presse, il est intervenu. Et pour finir, la rubrique juste avant 9h y est passée également. On a pu apprécier sa culture sur le cyclisme. À gratter du temps de parole partout où il passe, pour espérer convaincre des électeurs bien naïfs, on pourrait penser qu'il craint l'après-présidence, surtout qu'il sera justiciable, comme vous et moi, amis AMG, de là-bas si j'y suis.
Bonjour toute équipe, voilà, j'ai été scandalisée ce matin, le président qui a eu le courage de la France Inter. Mais franchement, c'était inadmissible. On ne m'a pas laissé passer. Par contre, on a laissé passer des auditeurs qui flaguaient le président, qui lui disaient qu'il fallait qu'il dégage. Franchement, c'est un président honnête et sincère. Hein, je voudrais leur dire, est-ce que leur compte en banque a diminué? Non, grâce au président Sarkozy ou leur État, non. Alors, je trouve ça inadmissible. Demain, c'est François Hollande. J'espère qu'il aura les mêmes auditeurs qui vont lui dire de dégager. Alors, franchement, on peut féliciter notre président Nicolas Sarkozy, hein, qui nous a sauvés du gouffre, là. Hein. On serait comme dans les autres pays, les salaires, les retraites qui diminueraient. On peut le féliciter, mais continuer à l'insulter, je trouve ça inadmissible même, je vais vous dire, dégueulasse. Voilà. Bonne journée.
Bonjour, je vous appelle suite à l'émission sur l'Espagne, donc d'hier et d'aujourd'hui. Je voulais dire beaucoup de choses, mais je vais essayer d'être court. Donc en Argentine, il s'est passé la même chose. Rien à voir avec l'espèce de télé-réalité pourrie que vous nous avez montré. Il y a l'association des grands-mères de la place de Mai qui se spécialise justement dans retrouver les enfants qui ont été dérobés par la junte militaire. Donc là, il s'agit de mères qui ont été gardées en captivité, torturées, puis tuées, mais entre-temps, on leur a juste donné le temps d'accoucher. Donc on estime à 500 le nombre de naissances qui ont eu lieu dans ces conditions. Et au mois d'août 2011, on en était à 105 cas résolus, donc personnes qui avaient retrouvé leur identité. Parmi tous ces enfants, il y en a certains qui voulaient pas savoir, qui voulaient pas savoir ce qui leur arrivait justement, quelle était leur histoire, leur identité. Et donc il y a une loi en Argentine qui dit que l'échantillon d'ADN, le prélèvement d'un échantillon d'ADN pour reconnaître l'identité est obligatoire et peut être pris par contrainte judiciaire. Et il y a une base de données des ADN des parents qui pensent avoir perdu des enfants ou qui ont perdu des enfants ou de leurs grands-parents pour le coup, puisque les parents ont été tués. Et donc il y a toute une équipe spécialisée dans comparer ces ADN. Voilà, à plus tard.
Le 13 août 1963, Consuelo, fille de fusillé, cousine de mon père, accouchait à l'hôpital général d'Alicante d'un garçon de 5 kilos, Antonio Cortés, en parfaite santé. 48 heures après, il mourut inexplicablement, le jour de la Vierge. Effondré, Consuelo n'eut pas la force de réagir, de demander à ce que l'on ouvre le petit cercueil blanc qu'on lui présenta et où reposait supposément le pauvre petit ange. Depuis 2 ans, Eva la Rouge, ma cousine, la fille de Consuelo, veut savoir et frappe à la porte de l'église, de l'hôpital général, du tribunal d'Alicante, de l'état civil. Elle a rencontré 1000 difficultés, mais elle est parvenue à déposer plainte, à contraindre le juge à ouvrir une enquête. Merci de tout cœur, Daniel et Antoine, au nom de Eva Cortés d'Alicante et de Jean de Pau. Merci de tout cœur.
Des histoires comme celle-ci, il y en a des milliers en Espagne. L'Espagne, il y a très peu de temps, 2, 3, 4 ans, a découvert cette histoire. L'histoire des enfants volés, l'histoire de ces peut-être 300 000 enfants qui, entre 1940 et 1990, auraient été volés à la naissance pour être vendus. Vendus, c'est dans la deuxième partie, c'est à partir des années 60-70. Mais c'est d'abord pour des raisons idéologiques que ces enfants ont été dérobés à la naissance à leurs parents, à leur mère. Car les franquistes enlevaient les bébés des femmes « rouges », entre guillemets, c'est-à-dire des républicains, des républicaines, pour les placer dans des bonnes familles afin d'éradiquer le gène du marxisme qui était considéré alors comme une maladie mentale. Alors, toute une chaîne complice de médecins, sages-femmes, religieuses, fonctionnaires s'est alors mise en place et peu à peu le système est devenu purement lucratif et mafieux. Peu à peu, ces dernières années, mais toutes récentes, 3, 4, 5 ans, la vérité est apparue et aujourd'hui elle éclate vraiment à la face de l'Espagne et des Espagnols. Et c'est une véritable guerre de la mémoire qui se livre actuellement en Espagne. En même temps que la guerre sociale s'étend à cause de la crise, eh bien il y a aussi en contrepoint ou mêlé étrangement cette guerre de la mémoire entre ces souffrances et un franquisme qui persiste dans ce pays, qui est devenu camouflé, rampant, qui a su se masquer, mais qui est bel et bien là et qui empêche que la vérité se fasse sur cette terrible histoire, à la différence de l'Argentine, par exemple, où il y a eu ces dernières années des grands efforts à l'échelle nationale pour essayer de régler une histoire comparable, mais de bien moindre importance. En Argentine, je crois, c'est 500 ou 600 cas. Là, ce serait autour donc de 300 000. Alors, il y a une confusion. Vous avez laissé des messages en disant, vous vous dites tantôt 30 000, tantôt 300 000. 30 000, ça concerne la première période, c'est-à-dire, disons, les 20 premières années, 40 jusqu'à la fin des années 50. Et ce nombre de 300 000 serait, il faut être prudent, au total, celui qui irait de 1940 à 1990. Alors voilà, aujourd'hui, les Espagnols sont en proie à cette histoire. Des émissions de télévision sont consacrées à cette histoire des enfants volés. Tout le monde se pose la question, est-ce que je suis vraiment le fils de mes parents? Est-ce que, se demandent certaines femmes qui ont eu qui ont fait des fausses couches, est-ce que vraiment l'enfant que j'ai mis au monde monde était mort-né, ou bien est-ce qu'on me l'a dérobé à la naissance? C'est donc une souffrance supplémentaire. Et on verra, on évoquera, mais rapidement, d'autres endroits dans le monde où des histoires comparables se sont produites, au Québec, par exemple, en Australie, par exemple, et même en Israël, au moment de l'opération Tapis Volant, où des Juifs du Yémen ont été sont arrivés en Israël. Donc, il y a plusieurs histoires comme ça, parfois avec des scénarios différents, mais l'histoire des Stolen Babies, il y en a plusieurs à travers le monde, mais celle-ci est très proche de nous, d'une ampleur considérable, et surtout, ce qui est particulier, c'est le silence. C'est extraordinaire, silence, même si on savait, même si on murmurait, il a fallu des années et des années pour que la vérité apparaisse. Depuis le début, ça fait 70 ans. Des émissions sont consacrées. Il y a ce soir un documentaire sur France 5. Je crois que c'est France 4 ou France 5, on vous le précisera. Et le travail de médias, de recherche, etc. continue. Et puis, enfin, le travail de la justice commence en Espagne. Et c'est là où nous nous rendons aujourd'hui, devant le palais de justice à Madrid, le palais de justice de la Plaza Catalunya. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour, Johan de Rouen. Un petit message pour annoncer la création d'un café repère sur Rouen, donc qui aura lieu tous les avant-derniers jeudis de chaque mois, 43 rue Armand-Carrel au café de l'époque. Donc premier rendez-vous jeudi 19 avril, donc dans 2-3 jours, avec pour thème « Que faire dans ce café repère ?». Voilà, donc vous venez nombreux, l'idée étant de se rencontrer une première fois et puis de discuter ensemble de ce qu'on peut faire, de quoi on peut discuter par la suite, une fois par mois, donc au Café Repère, Café de l'époque, 43 rue Armand-Carrel, avant-dernier jeudi de chaque mois, de 18h à 20h, j'avais oublié de préciser, de 18h à 20h. Bonne journée, au revoir.
On est une vingtaine d'habitants dans mon hameau perdu, et pourtant, leur Bolkestein, je l'ai sous les yeux. Devant chez moi, c'est un gîte rural. Il y a un mois, 5 carreleurs polonais y logeaient. Depuis 2 semaines, ce sont des ouvriers portugais, tous employés par des entreprises françaises, mais aux conditions de leur pays respectif. C'est-à-dire en 3-8, 7 jours sur 7, et je parle même pas du salaire. J'ai entendu hier que l'Europe veut encore accroître, je cite, « la mobilité des travailleurs pour réduire le chômage ». Ce que moi, je traduis par « supprimer le droit du travail pour accroître les profits ». Je me trompe ? C'est Christine du Limousin.
Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
Et tous les autres, merci et respect.
Nos ocupamos de todo.
Nous nous occupons de tout.
Era la frase que se empleaba sistemáticamente. Nos ocupamos de todo.
C'était la phrase qui était utilisée systématiquement dans ces
Cuando
cas-là.
Se decía a la madre que su niño había muerto,
quand on disait à une mère que son enfant était mort,
la madre decía, quiero ver a mi hijo para enterrarle yo.
Et la femme disait, je veux voir mon enfant pour l'enterrer moi-même. Systématiquement,
se le decía siempre, nos ocupamos de todo.
On lui disait, nous nous occupons de tout.
Pues eso, pues a las presas políticas
que
estaban embarazadas, pues claro,
les
quitaban a los bebés.
On leur enlevait les enfants.
Y ellos querían hacerlo, ¿sabes? Que, o sea, que este país, por así decir, fuera pues exclusivamente de derechas.
Et ils voulaient que ce pays soit de la ideología de droite, de leur idéologie. Aquí à leur idéologie.
Pour Franco, c'est le temps du triomphe. Mussolini télégraphie.
Je vous remercie d'avoir consenti aux troupes légionnaires le haut honneur de défiler devant vous dans Madrid reconquise pour l'Espagne une, libre et grande, que vous êtes en train de construire.
Les troupes franquistes ferment la dernière frontière. Les vaincus ne pourront plus choisir l'exil.
Porque si mis cálculos no funcionan mal, aquí hay 300.000 familias afectadas.
Parce que si mes calculs sont bons, moi j'estime qu'il y a 300.000 familles qui sont affectées par ce drame.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Antoine Chao. Là-bas, j'y suis, les enfants volés d'Espagne.
Flight number 2, arriving from...
Donka de Maria Luisa, qui, elle, a eu la chance de retrouver sa fille. Le père adoptif a aidé sa fille adoptive a retrouvé sa mère biologique.
Effectivement.
Tout à fait.
Parece ser que la niña desde muy jovencita tuvo interés en buscar a los padres biológicos.
Il semble que dès son plus jeune âge, la petite a essayé de retrouver ses parents biologiques.
Y el padre la apoyó.
Et le père l'a aidé.
La accompagnó a los registros.
Il l'a accompagné pour consulter les registres.
La accompagnó a ver a la monja.
Il l'a accompagné pour voir la bonne sœur.
Le accompagnó a programas de televisión.
Il l'a accompagné à des programmes de télévision.
Que fue finalmente gracias a lo que se encontraron la madre y la hija.
Et c'est grâce à un de ces programmes de télévision que la mère et la fille se sont retrouvés.
Fue en un programa de la cadena Antena 3.
Un programme d'Antena 3, la troisième chaîne.
Hace años, ella salió, dijo que buscaba a su madre.
Donc elle a dit à la télé qu'elle cherchait sa mère.
La madre no vio el programa.
La mère n'a pas vu ce programme.
Pero después la misma periodista que entrevistó a la niña hace años, buscando coincidencias, localizó a la madre.
Et c'est la journaliste qui avait interviewé la fille qui a retrouvé la mère.
Y a partir de ahí hicieron las pruebas de ADN que dieron.
Les tests ADN et ils se sont rendu compte que c'était bien ça.
Que dijeron que bueno, que eran madre e hija, sin ninguna duda.
Porque nadie tiene derecho a decidir quién tiene un hijo y quién no.
Porque nadie tiene derecho a manipular vidas.
Parce que personne n'a le droit de manipuler des vies.
Aujourd'hui,
l'émission El Diario et l'ADN nous dévoilent la vérité. Selon les examens génétiques réalisés, on peut conclure que Pilar, je vous demande de regarder par ici.
Si, son madre!
Oui, elles sont mère et fille!
Voilà, 30 juin 2011, une effusion formidable sur la télévision espagnole, Antena 3, dans cette émission El Diario, où Maria Luisa, la maman, retrouve sa fille Pilar avec le certificat, la certitude de l'ADN. Cette scène, tous les Espagnols la connaissent, l'ont vue et revue, et ces images ont secoué ce pays qui savait ça, mais ça ne sortait pas. Et là, ça a été l'occasion de, sur ces 300 000 cas, je sais bien que ce chiffre est invraisemblable, mais c'est pourtant bien celui qui est avancé la plupart du temps, depuis qu'on a pris conscience et qu'on essaye de faire quelque chose. Des associations nombreuses se sont constituées pour essayer de se retrouver, mère et fille et fils et ses enfants et ses parents séparés. C'est une émotion considérable, mais il n'y a que 14 cas pour l'instant qui ont été 14 cas de retrouvailles pour l'instant. Et surtout, la grande question, c'est la question de la justice. Que fait la justice en Espagne? Eh bien, ce jour-là, ce 2 avril dernier, avec Antoine, on était devant ce tribunal, le tribunal de la Plaza Catalunya à Madrid, où Maria Luisa, la mère, et Pilar, la fille, venaient déposer une plainte contre Maria Gomez Balbuena, 84 ans, une religieuse, donc qu'elle met en cause dans ce trafic d'enfants. Beaucoup de gens auparavant ont essayé de déposer plainte, mais les plaintes n'ont pas été reçues, n'ont pas été considérées comme recevables. Et bien là, ce jour-là, pour la première fois, la plainte était reçue par le tribunal, par les juges d'instruction, et ça a été suivi d'une mise en examen de la sœur Maria Gomez Balbuena pour détention illégale et faux en écriture. Et le 12, ces jours derniers, le 12 avril, elle a été convoquée, donc, pour déposer. Elle a refusé de parler, elle a observé le silence. Mais enfin, on peut espérer que la justice est en route en Espagne. Tout ça a une origine. Tout ça a une origine qui tient dans la phrase suivante. Les relations intimes existant entre le marxisme et l'infériorité mentale sont évidentes. La mise à l'écart des sujets, dès l'enfance, pourrait affranchir la société de cette idéologie. Cette phrase est signée du docteur Antonio Valero Nagueira, médecin psychiatre, un proche de Franco, et qui pensait, comme vous le comprenez, qu'il fallait se débarrasser de ce gène, de cette calamité, le mal absolu qu'était le marxisme. Aussi, dès 1939, des milliers de femmes républicaines qui viennent accoucher dans les maternités en ressortent sans bébé. Les bébés sont déclarés morts-nés, mais en fait, l'enfant, bien vivant, est placé sous la tutelle d'une famille franquiste pour être rééduqué. Ce sont les bonnes sœurs qui sont chargées de voler les enfants avec toute une chaîne de complicité. Médecins, gynécologues, prêtres, personnel administratif, enfin toute une chaîne comme ça qui peu à peu avec le temps va changer de but, va devenir lucrative, va devenir mafieuse, et jusque dans les années 80 ou 90. Voilà ce dont nous parlons aujourd'hui jusqu'à 16h dans la basse où j'y suis. Les enfants volés d'Espagne.
Nous dire où en sont les poursuites dans cette affaire.
Bueno, este caso en concreto está en fase de instrucción.
Donc ce cas concrètement est en phase d'instruction.
Ouais. On est avec Guillermo Pena Salsamende, qui est l'avocat de Maria Luisa, l'avocat de la maman qui a retrouvé sa fille et qui donc, ce jour-là, est venu porter plainte devant au tribunal. Et devant le tribunal, il y a toutes les familles, parents, enfants qui sont venus la soutenir, qui sont venus l'embrasser et qui eux-mêmes sont porteurs de cette question et de cette quête et à la fois émouvante et terrible. L'avocat.
Este sería el caso que más avanzado está.
Ça, ce serait le cas qui a le plus avancé judiciairement.
Es la primera, el primero que ha llegado a esta fase.
C'est le premier qui arrive à ce niveau-là.
Qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport à la dimension de l'événement, à l'émotion suscitée par l'événement, est-ce qu'on peut dire que la justice répond à l'attente?
La justicia tiene sus ritmos.
La justice a ses rythmes.
Nos gustaría que fueran ritmos más rápidos.
On aimerait que ça aille plus vite.
Pourquoi si tard? Pourquoi seulement maintenant?
Bueno, vamos a ver. Cuando a un padre le decían, o a una madre, le decían que su hijo había muerto.
Quand on disait à un parent que son enfant était mort.
Y lo firma un funcionario, un jefe de servicio médico.
Et qu'un fonctionnaire, un chef de service médical, signait cette déclaration.
Nadie va al registro civil a comprobar si es verdad lo que me ha dicho el médico.
Personne n'allait vérifier au registre civil si c'était la vérité.
Porque normalmente uno confía en el médico.
Parce que normalement quelqu'un fait confiance dans la médecine, dans les médecins.
Pero cuando salta a la luz uno o varios casos en que eso no es cierto,
mais quand on apprend qu'il y a eu plusieurs cas où c'était faux,
todas las personas a las que se les ha muerto un hijo van a pedir esa documentación porque ya empiezan a sospechar.
Toutes les personnes qui ont été dans ce cas de figure commencent à avoir des soupçons et vont demander ce certificat et vont vérifier.
Quand on dit qu'il y a 300 000 cas, est-ce que vous pensez que c'est crédible?
No son 300 000 casos, son 300 000 sospechas.
Non, c'est pas 300 000 cas, mais ce sont 300 000 doutes. Personne qui doute.
Claro, porque un bébé muerto.
Un bébé mort,
si no está enterrado,
s'il n'est pas enterré,
ahí hay algo raro.
Y
es una sospecha. No sabemos exactamente por qué no está enterrado.
Pourquoi il n'est pas enterré.
Entonces, puede ser que sea un caso de bebé robado o puede que no lo sea.
Ça peut être un cas de bébé volé ou ça peut ne pas l'être.
Un simple error administrativo.
Ça peut être une erreur administrative.
Hein? Pas 300 000 cas, mais 300 000 soupçons.
Et c'est 300 000 sospechas en total.
Oui, 300 000 soupçons, effectivement.
En 50 años.
En 50 ans. Donc là, il y a beaucoup de familles qui sont là, qui sont autour et qui sont venues soutenir Maria Luisa dans son combat. Donc il y a beaucoup de femmes qui sont là, qui l'embrassent. Il y a des petites pancartes qui disent « Todos somos Maria Luisa, nous sommes tous Maria Luisa ». Ils veulent prendre des photos avec sa fille. Elle est là, la fille, en fait.
Elles sont en train de s'embrasser, de s'étreindre. Devant les caméras.
Et donc là, il y a les familles qui viennent en soutien. Yo también busco. Moi aussi, je cherche mon frère qui était à O'Donnell, dans l'hôpital O'Donnell en 65.
Bueno, nosotros estamos buscando a nuestro hermano.
Nous, on cherche notre frère.
Nació en Madrid, en la clinique O'Donnell.
Il est né à Madrid, à O'Donnell, la clinique O'Donnell.
El 25 de enero de 1965.
Le 25 janvier 1965.
Nacieron gemelos, un niño y una niña.
Un garçon et une fille.
El niño nació bajo de peso, en cuidados prematuros.
Le garçon était prématuré.
Iba mejorando.
Il allait de mieux en mieux.
Y a los 21 días, cuando ya mis padres iban a recogerlo para llevarlo a casa.
21 jours, quand mes parents sont venus le chercher pour le ramener à la maison.
Les dijeron que había muerto.
Ils lui ont dit qu'il était mort.
No nos dejaron enterrarle.
Ils ne nous ont pas laissé l'enterrer.
No nos dejaron ver el cuerpo.
On n'a pas pu voir le corps.
Cuando mi padre y mi hermano mayor requirieron ver el cuerpo y
quand mon père et mon grand frère ont exigé de voir le corps.
Les amenazaron, les
ils
dijeron.
Les ont menacés.
Que no hicieran más jaleo.
Qu'ils ne fassent plus de problème, qu'ils s'en aillent.
Que su hijo estaba muerto.
Que leur fils était mort.
Nunca vimos el cuerpo.
On n'a jamais vu le corps.
Yo tenía seis años.
Moi, j'avais
en
six
ese
ans,
momento
à ce moment-là, ouais.
Y siempre hemos tenido la sensación en la familia
et on a toujours eu
de
la
que algo raro había pasado.
De que quelque chose de bizarre était arrivé.
Nunca pensamos que lo hubieran robado.
On pensait pas qu'ils aient pu le voler.
Era demasiado terrible.
C'était trop terrible.
No se nos pasaba ni por la cabeza.
On pouvait même pas l'imaginer.
Pero pensábamos que algo había pasado, alguna confusión.
Mais on pensait que quelque chose était arrivé, hein, une confusion.
Y sobre todo la sensación
et surtout la sensation
d'impotencia.
D'impuissance.
allí los médicos y los religiosos en esa época.
Les médecins, les religieux à cette époque-là.
Bueno, su palabra era la que valía.
C'était leur parole qui comptait, il y avait rien à faire.
Y hace un par de años, cuando empezamos a oír de todo el tema de los niños robados.
Et ça fait à peu près deux ans quand on a commencé à entendre parler de cette histoire d'enfants volés.
Nos encajaron las piezas.
Voilà, c'est comme si le puzzle se mettait en place.
Todas las historias son iguales.
Toutes les histoires sont les mêmes.
Entonces estamos ahora mismo estamos convencidos de que a mi hermano le robaron.
Alors
y
aujourd'hui
que está
on est convaincus qu'ils nous ont volé notre frère et qu'aujourd'hui il vit dans une autre famille.
Voici Badajoz. Heures après l'entrée des troupes du général Franco.
Spanish Holocaust.
L'armée rebelle reçoit des renforts.
Un film de Montse Armengol.
Madrid.
Madrid.
En la iglesia de Santa Bárbara.
Dans l'église de Santa Bárbara.
Un acto religioso.
Se déroule un acte religieux.
Hondamente emotivo.
Profondément émouvant.
En que el caudillo hace ofrenda a
Dios. Le caudillo fait offrande à Dieu de son épée victorieuse.
Hay que sembrar el terror.
Il faut semer la terreur. Il faut laisser une sensation de domination en éliminant sans scrupule et sans hésitation tous ceux qui ne pensent pas comme nous. Je sauverai l'Espagne du marxisme coûte que coûte. Je n'hésiterai pas à tuer la moitié des Espagnols si tel était le prix de la pacification.
Las palabras perdón y amnistía.
Il faut effacer du dictionnaire les mots pardon et amnistie.
La radio franquise de Salamanque déclare « L'Espagne n'est pas dans les édifices ni dans les villes. Elle se trouve dans les idées et dans le génie de Franco. Nous sommes en guerre, en avant et jusque par-dessus le bord. »
Au départ, quelle était l'intention de la dictature en volant ses enfants? Quelle était l'idée?
Cuestión ideológica,
c'est une question idéologique. Il y a des documents, on a les preuves.
¿Qué primero fueron los hijos de las presas republicanas.
Donc d'abord les enfants des prisonnières républicaines.
Cuando ya las presas republicanas no tienen hijos.
Et quand les prisonnières républicaines n'avaient plus d'enfants.
Empiezan a pensar en aquellas familias de la sociedad donde menos problemas pueden crear.
Donc ils ont commencé à penser à ces familles
pues,
qui ne poseraient pas trop de problèmes, donc des prostituées,
familias humildes,
des familles modestes.
Y poco a poco fueron perdiendo el pudor y fueron ampliándolo.
Ils ont perdu leur scrupule et ils ont amplifié ce système à toutes les familles.
Fundamentalmente familias extensas. Nosotros somos
souvent
9 hermanos.
Des familles nombreuses.
El último parto gemelos.
Nous on est 9 par exemple. Et c'est la dernière grossesse de ma mère qui s'était deux jumeaux.
Una parte importante de los robos es de gemelos.
Et beaucoup de vols ont été des vols de jumeaux.
Como si para unos padres el llevarse un niño a casa les consolara de la muerte del otro.
Comme si le fait de ramener quand même un enfant à la maison pouvait les consoler de la disparition de l'autre.
Hubo gente, no digo ya que se hicieran multimillonarios, pero que era una parte importante del ingreso que tenían mensual, seguro.
Et c'était sûrement des rentrées d'argent importantes tous les mois pour ceux qui participaient à ce trafic.
La propia monja que a la que se está acusando hoy aquí.
Alors la bonne sœur qui est accusée aujourd'hui ici.
Habrá que investigar el patrimonio personal que tiene.
Il faudra faire une enquête sur son patrimoine personnel.
Y hay que investigar los patrimonios personales que han tenido a lo largo del tiempo toda la gente relacionada con la trama.
Il faudra aussi faire une enquête sur l'enrichissement de tous ceux qui participaient à cette organisation.
Necesitamos fiscales valientes.
Donc on a besoin en fait de juges courageux.
Que no les importe investigar al clero.
Qui puissent mener des enquêtes au sein de l'Église, au sein du clergé.
Que no les importe investigar a parientes de políticos en activo en estos momentos.
Des juges qui ne craignent pas non plus de faire des enquêtes sur des personnalités politiques du moment.
A los políticos, al Congreso, lo que necesitamos es que cambien las leyes.
On a besoin aussi que le Congrès change les lois.
La ley de protección de datos hagan excepciones para estos casos.
Que la loi de protection des données fasse une exception sur ces cas précis.
Para que los afectados, las víctimas por el robo de los niños,
pour que les victimes de ces vols d'enfants,
podamos acceder a los archivos.
Puissent accéder aux archives.
Tanto públicos como privados.
Public et privé.
La iglesia está cerrada totalmente.
L'église a complètement verrouillé ses archives.
No nos deja ver los archivos.
Elle ne nous laisse rien consulter.
Por ejemplo, en nuestro caso concreto, nuestro hermano,
par exemple, dans notre cas précis,
no hay partida de bautismo. Nous l'a certificado la iglesia.
On n'a pas trouvé de certificat de baptême et ça l'église nous l'a certifié.
Y en la época en la que nació mi hermano, era imposible que un niño muriese sin bautizar.
Et à l'époque, c'était impensable, impossible qu'un enfant meure sans être baptisé.
Nuestra familia pensamos, si no hay partida de bautismo,
on pense que s'il n'y a pas d'acte de baptême,
mi hermano está vivo.
C'est que mon frère est vivant.
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto a mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi mía. Yendo a Guadalquivir, la gitana lava, los niños en la orilla viendo los barcos pasar. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir. Contigo me voy, Tana, y aunque me cueste morir.
Donc là, il y a une femme qui a busco a mi hija, je cherche ma fille, Maria Pilar Martín. Alors elle a un petit panneau autour d'une petite pancarte. SOS, bébés robados, Madrid. Voilà. Elle est née en 62.
62. Saber la verdad.
Moi, je voudrais savoir la vérité. Au moins, qu'est-ce qui s'est passé ?
Saber la verdad.
Savoir la vérité.
Ce qui est terrible dans cette histoire qui a explosé il y a deux ans...
Je veux savoir la vérité. ¿Qué pasó?
Moi, je veux savoir la vérité.
Si la dio en adopción,
est-ce qu'elle l'a
donnée
ou est-ce qu'elle est morte pour de vrai ?
Ce qui se passe avec cette histoire, ce qui est terrible, c'est que ça a explosé il y a deux ans. Des milliers et des milliers de personnes se sont mis en quête de leurs enfants, mais aussi tous les parents, toutes les mamans qui ont eu des enfants mort-nés, normalement, et qui ont fini par faire le deuil, c'est un deuil très difficile évidemment à faire, tout d'un coup ont été interpellés, réveillés par cette histoire, et se sont mis à douter et à espérer que l'enfant perdu, l'enfant mort, était peut-être vivant quelque part, quoi. Ça c'est terrible, c'est une souffrance terrible.
Et parallèlement, il y a plein de gens qui sont en quête de leur identité.
Ouais, il y a aussi les enfants nés à cette époque qui sont en quête de leurs vrais parents et qui sont persuadés qu'ils ont été élevés par des voleurs d'enfants, non pas par des adoptants, c'est vrai. Il ne faut pas dire adoptants, il faut dire voleurs d'enfants. Mais quelques-uns, nous dit-on, sont des adoptants tout à fait sincères qui ignoraient l'origine de leurs enfants, qui ignoraient les conditions dans lesquelles leurs enfants étaient arrivés jusqu'à là. On va parler avec ce monsieur. Vous êtes, vous portez autour de devant vous comme ça un panneau qui dit bébés robados, enfants volés, enfants enlevés, dérobés. Qu'est-ce qui est arrivé?
Parce que c'est le premier bébé que ma femme elle avait.
Vous êtes très ému.
C'est pas possible d'éviter ça. Je suis très sensible.
chaque fois que je pense à ça, je me plonge beaucoup.
Le 31 décembre 1939, Franco proclame:
ce dont nous avons besoin, c'est d'une Espagne unie, consciente. Elle doit être chrétienne, grâce au rachat par le travail, accompagné de repentir et de pénitence.
Je m'appelle Mabel Square, mais je ne suis pas Mabel Square.
Vous portez un gilet où il est écrit:
qui suis-je? Qui suis-je?
1952.
Je ne sais pas qui je suis.
C'est-à-dire?
Dicen que nací el 10 de marzo de 1952.
Ils disent que je suis né le 10 mars 1952.
Pero no es cierto.
C'est pas vrai.
He conseguido demostrar por medio de pruebas tan importantes como los mitocondriales.
J'ai réussi à démontrer avec des preuves mitochondriales très précises.
Que nada tengo que ver con la familia a la que fui a parar.
Que je n'ai rien à voir avec la famille dans laquelle je suis arrivé.
Que yo se me crea una identidad falsa.
Donc on m'a donné une fausse identité.
Figuro como hija biológica de un matrimonio que nunca pudo tener hijos.
Non, parce que moi je suis inscrite comme fille biologique d'un couple qui n'a jamais pu avoir d'enfant.
Aun así, el fiscal tiene la osadía de cerrar el caso.
Et même avec toutes ces preuves, le juge a eu le toupet de classer l'affaire.
Y dice: no veo motivo de delito.
Je ne vois pas de motif de délit.
Y sin embargo, soy una persona ilegal.
Et pourtant, je suis une femme illégale.
Solo espero.
J'espère seulement.
Que descubra mi identidad.
J'espère découvrir mon identité, ma vraie identité.
Antes de mi muerte.
Avant de mourir.
No solo para la lápida.
Pas que pour la pierre tombale.
Oui.
Depuis quand vous posez toutes ces questions?
Hace dos años.
Ça fait deux
ça
ans.
Fait 12 ans.
Hace dos años lo supe realmente.
Ça fait deux ans, je l'ai su vraiment.
Realmente pregunté a un familiar y se pudo descubrir.
J'ai demandé à quelqu'un de la famille et j'ai pu découvrir tout ça.
Pero a los 14 años.
Mais dès mes 14 ans.
En mi casa había una fotografía.
Dans ma maison, il y avait une photo.
De mi falso papá.
De mon faux père.
Mi falsa mère.
De ma fausse mère.
Y un bebé.
Et un bébé.
Yo siempre pregunté: ¿quién es ese bebé?
Et moi j'ai toujours demandé: qui est ce bébé?
Ellos decían: ¿eres tú?
Et ils me disaient: c'est toi.
Mais non. Porque detrás pone 28 de septiembre de 1951.
Parce que derrière, il y a la date du 28 septembre 1951.
Mais mis papeles dicen que nazco 10 de marzo de 1952.
Mais moi, mes papiers disent que je suis né en 52.
Nunca pude ser yo.
Donc ce n'était pas moi.
Era otro bebé.
C'était un autre
bébé. Que adquirieron de igual forma,
comprándolo. Ils ont acheté de la même façon.
Se les muere. Y en el hospital les dicen: no se preocupen, antes de una semana tienen otro bebé.
Et à l'hôpital, ils leur ont dit: ne vous inquiétez pas, d'ici une semaine, on vous donnera un autre enfant.
Ese bebé fui yo.
Et ce deuxième bébé, c'était moi.
Vous êtes né en 1952, votre maman était peut-être née en 1932.
Yo me hice pruebas de ADN.
Moi, je me suis fait des tests ADN.
Con 9 personas.
Avec déjà 9 personnes.
Las madres tenían 85, 86.
Les femmes avaient 85, 86 ans.
Ahora estoy esperando una de 82.
Et maintenant, j'attends les résultats de test d'une femme qui a aujourd'hui 82 ans.
C'est possible.
Voilà les témoignages devant ce palais de justice de Madrid, ces familles qui aimeraient redevenir famille, ces gens qui se cherchent. C'est évidemment pathétique. Un auditeur dit cette histoire est passionnante parce qu'elle ne se résume pas seulement à une question d'argent, c'est-à-dire un marché d'enfants, ou même d'idéologie, c'est-à-dire l'idéologie de l'homme nouveau, mais elle comprend aussi une part de fascination de l'oppresseur pour celui qui l'oppresse. En Argentine, rappelle cet auditeur, dans les années 70, de très jeunes enfants d'opposants réputés pour leur ténacité, leur courage et leur capacité de résistance ont été illégalement adoptés par les militaires qui avaient eux-mêmes participé aux tortures et aux meurtres de leurs parents. Et là, effectivement, il y a un lien étrange entre les uns et les autres à un certain niveau d'inconscient collectif. Alors, quelqu'un qui sait beaucoup, qui est un des pionniers de cette histoire, c'est Francisco González de Tena, et qui n'aime pas qu'on l'appelle Francisco, parce que c'est le même prénom que Franco. Alors il se fait appeler Paco, on va l'appeler Paco González de Tena, qui est un sociologue, qui est un intello, et qui est un des premiers, enfin, à avoir un des pionniers pour la vérité sur cette histoire, et il revient sur le rôle des parents adoptifs.
Enlaza esto con que mi primera tesis trataba sobre los niños de auxilio social, o sea, una institución franquista que recogía niños teóricamente abandonados.
Donc ma première thèse est justement sur les enfants qui se retrouvaient dans les hospices franquistes d'aide sociale.
Para educarlos en la filosofía falangista.
Pour les éduquer dans la philosophie falangiste.
Era una mezcla de la religión católica,
un mélange de religión catholique
et la
idéologie falangiste.
El ideal de José Antonio Primo de Rivera.
L'idéal de José Antonio Primo de Rivera.
Mitad monje, mitad soldado.
Qui était moitié curé, moitié soldat.
Moitié soldat. À partir de quand est-ce que c'est devenu une grande affaire publique ici?
Bueno, empieza a estallar a principios del 2009.
Donc c'est en 2009 que ça commence à se savoir régulièrement.
2009 ya es cuando ya es digamos voz populi, que es cuando las madres pueden acceder a los medios de comunicación.
Donc c'est à partir de 2009 quand les mères commencent à avoir accès aux médias que l'affaire explose.
Todavía de alguna forma hay capas en la sociedad que no son conscientes de que les puede haber pasado.
Donc il y a encore des couches de la population qui ne sont pas conscientes que ça a pu leur arriver.
Pero yo quiero señalar una cosa muy importante. No todos los padres adoptantes, o sea, que adoptan los niños, eran conscientes de que los niños eran robados.
Mais je veux souligner quelque chose. Tous les parents adoptants n'étaient pas forcément au courant que les enfants étaient volés.
Mais quand même, 2009, vous dites ça a explosé en 2009. Pourquoi? Pas avant. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Qu'est-ce que vous disiez avant? Les intellectuels, les chercheurs?
Había un ruido de fondo.
Y había un bruit de fondo.
Ah.
Pero no había cristalizado.
Il n'avait pas cristallisé.
Porque en la sociedad española, aunque suena extraño, todavía hay un resquemor.
Parce que dans la société espagnole, même si ça semble bizarre, étonnant,
la socialisation del silencio.
Il y a quelque chose que moi j'appelle la socialisation du silence.
Y es para no destacarme me callo.
Pour ne pas me faire remarquer, je me tais.
Eso justifica la impunidad.
Et ça justifie l'impunité.
Une semaine après avoir comparu dans une affaire d'écoute illégale, le juge Garçon revient devant les tribunaux.
France 24.
Mais cette fois-ci pour une affaire beaucoup plus sensible.
24 janvier 2012.
Il est accusé de forfaiture pour avoir voulu enquêter sur les 100 000 disparus de la guerre civile et de la dictature franquiste, un tabou en Espagne. Selon ses détracteurs, il enfreignait alors une loi d'amnistie générale votée en 1977, deux ans après la mort de Franco. Mais pour le juge Garçon, les disparus espagnols sont victimes de crimes contre l'humanité, un crime qui échappe à la loi d'amnistie. Les associations des droits de l'homme jugent inacceptable le procès du juge à l'origine de l'interpellation d'Augusto Pinochet.
Grâce au juge Garçon, grâce à l'arrestation de Pinochet, les murs de l'impunité sont tombés. Le paradoxe aux yeux du monde, c'est de voir que quand il essaye de faire exactement la même chose en Espagne, il est non seulement stoppé dans sa démarche, mais également poursuivi devant les tribunaux. Ça paraît incohérent, scandaleux.
Il y a eu des situations comparables en Argentine, avec les disparus, là aussi, des vols d'enfants de combattants, de résistants, ont été adoptés par des militaires.
En l'origine, si.
Au début, oui, à l'origine.
Pero en el desarrollo, no.
Mais pas dans le développement du phénomène.
Y por qué es diferente en Argentina, porque ha sido acotado en el tiempo, en un periodo corto de tiempo.
Parce qu'en Argentine, ça s'est déroulé pendant une période très courte.
Y además, las madres y las abuelas han reaccionado rápido.
Y en plus, les mères et les grands-mères ont réagi rapidement. Videla y Pinochet
tenían un maestro,
avait un professeur,
Francisco Franco.
Franco.
Entonces intentaron reproducir las pautas.
Donc ils ont essayé de reproduire
la conformación de una sociedad ideal uniformizada,
d'une société idéale uniformisée,
al modelo franquista.
Comme le modèle franquiste.
Con otras técnicas.
Avec d'autres techniques.
Yo vi a Augusto Pinochet en el entierro de Franco sentado en primera fila con la capa azul.
Moi j'ai vu Pinochet à l'enterrement de Franco qui était assis au premier rang avec sa cape bleue.
Entonces era para ellos era el modelo a seguir.
C'était le modèle à suivre.
Esa es la diferencia porque se acotó en el tiempo y es más controlable. En España es incontrolable.
C'était beaucoup plus court dans le temps et beaucoup plus contrôlable.
Porque una parte de la Iglesia que se comprometió activamente a mantener los ficheros.
Parce que là-bas, au Chili, en Argentine, une partie de l'Église a fait en sorte de donner les informations aux maires.
Sin embargo,
des disparus.
Sin embargo, aquí cumplieron con su cometido del nacional catolicismo.
Alors qu'ici, par contre, ils se sont compromis dans le national catholicisme. Résumé des hauts et bas enregistrés dans la langue agonie du dictateur.
Bulletin de santé des derniers jours du général Francisco Paolino Hermenegildo Teodulo Franco Ibaamonde, le généralissime Francisco Franco, guide d'Espagne par la grâce de Dieu.
17 octobre, il tombe malade. Le 21, il souffre la première d'une longue série d'attaques cardiaques, appelées aussi insuffisance coronaire. Ce qui veut dire que le cœur n'est pas en mesure d'envoyer du sang au cerveau et à d'autres parties du corps, et que le patient entre en état de coma. Le 23, nouvelle insuffisance coronaire. Le 24, nouvelle attaque cardiaque avec une distension abdominale. Le 25, accumulation de liquide dans les poumons et fièvre. Le 26, hémorragie gastrique et nouvelle insuffisance coronaire, haute pression sanguine. Le 28, paralysie intestinale, incapacité d'évacuer les excréments, coagulation dans les veines abdominales. Et contrairement à certaines informations publiées à l'étranger, hier soir, aucun projet de transmission temporaire du pouvoir n'avait été transmis au palais royal, indiquent des sources très proches du prince Juan Carlos.
Je vais éditer un ensayo qui s'appelle « À causa del general ».
Moi, je vais sortir justement un travail là qui s'appelle « À cause du général ».
Y trato de demostrar la continuidad de intereses.
Et j'essaie de démontrer la continuité d'intérêts
que permiten la pervivencia de
qui ont permis la permanence de ces choses.
La fractura social que provocó la guerra civil en España.
La fracture sociale qu'a provoqué la guerre civile en
Espagne. Rompió la sociedad de forma casi irrecuperable.
A brisé la société de façon irrécupérable.
Había un 70%, un 80% de desclasados.
Il y avait 70 ou 80% de déclassés.
Y un 20%, un 15% de elegidos.
Et 15 ou 20% d'élus.
Y se han perpetuado por una teoría que a mí realmente me gustó de Pierre Bourdieu.
Il y a une théorie de Pierre Bourdieu qui m'a beaucoup intéressé.
Tres capitales.
Celle des trois capitales.
El capital social.
El capital social.
Capital económico.
Capital económico.
Y capital cultural.
Y capital cultural.
Todo ello abonado por las relaciones familiares.
Et tout ça augmenté par les relations familiales.
Endogámicas.
Endogámiques.
Une oligarchie endogamique qui continue de tenir le pays et qui a été favorisée par le néolibéralisme.
La impunidad.
L'impunité.
Y la prescripción.
Et la prescription.
Estos dos elementos son los que sustentan la intocabilidad. No se pueden tocar.
C'est ces deux éléments qui permettent l'intouchabilité. On ne peut pas toucher ces gens.
Y de hecho, el albacea testamentario a perpetuidad de los valores del franquismo.
En Espagne, le legs testamentaire du franquisme
Es la Iglesia Católica.
C'est l'Église catholique qui le tient, qui le défend.
Y sus privilegios no solamente no han sido reducidos.
Et ses privilèges n'ont pas été réduits.
Sino que han sido incrementados.
Ils ont été augmentés, au contraire.
Mais soyez sans inquiétude, nos occupamos de tout. De todo, nous nous occupons de tout. Merci à toutes et à tous. Les enfants volés d'Espagne, c'était un reportage avec Antoine Chao. Merci à Carmen Luque del Gabo, Francisco González de Tena, qu'on vient d'entendre. Et puis ce soir à 20h50, sur France 5, un documentaire, Une vie volée, de Laurence Jourdan. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org, là-bas.org, et nous retrouver sur notre page Facebook. Jean-Philippe Jeanne et Defar Guéride étaient à la technique aujourd'hui. Franck Adhérer et Bertrand Chompton réalisaient cette émission, assistés de Marina Touyez et Grégory Salomonovic. Attends vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Non mais tu le crois ça? Hier, 23h, retour de week-end, en panne au milieu de nulle part.
Attends, ne me dis rien. La dépanneuse te dépose sur le parking du garage le plus miteux du patelin, forcément fermé. Bref, t'es piéton et ça va te coûter un peu.
À la GMF, les idées reçues, nous, on les plaque. En cas de panne, non seulement nous vous venons en aide, mais en plus, nous pouvons prendre en charge et payer les réparations. C'est ça, une bonne assurance.
GMF, assurément humain.
Voir conditions et détails des prestations en agence ou sur gmf.fr.
France Inter présente Carnage, le nouveau film de Roman Polanski en DVD. New York, deux couples névrosés règlent leur compte dans un face-à-face cruel et hilarant.
Je suis un pur caractériel de base et je vous emmerde.
La politesse s'arrête là où commence la crise de nerfs.
Toi la ferme.
Une comédie par Roman Polanski avec Jodie Foster et Kate Winslet. Carnage, un DVD Blu-ray France Inter.
Waouh.
Ouais, on laissera des messages hein, sur le site, sur la page France Inter, l'émission là-bas si j'y suis, parce qu'il y a des témoignages de d'amis, d'auditeurs d'origine espagnole qui racontent des histoires très proches de celles qu'on vient d'entendre aujourd'hui au cours de cette émission, et on voit que c'est un écho très profond et très large que cette histoire des enfants volés. Il est 16h sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet, salut.
Cette année, l'année prochaine un peu mieux. Le FMI prévoit une croissance de seulement 1% en 2013 et un chômage en hausse en France. Des prévisions qui vont dans le sens, pour cette année en tout cas, de celles des candidats Sarkozy et Hollande. En revanche, pour l'an prochain, le président candidat prévoit une croissance de 1,75%, le candidat socialiste un peu moins. Pour les États-Unis, les prévisions sont plus optimistes pour le FMI, plus de 2% cette année et l'an prochain. Et ne parlons pas de la Chine où la croissance devrait rester, selon le FMI, supérieure à 8% cette année. Et en 2013. Plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité au menu du Conseil constitutionnel aujourd'hui. Les sages ont examiné la définition pénale du harcèlement sexuel. Un homme s'estimant injustement condamné et une association de défense des droits des femmes ont demandé son abrogation du fait de son imprécision. Les sages ont aussi examiné une QPC qui remet en cause l'indépendance et l'impartialité des tribunaux de commerce en France. Deux sœurs ont été condamnées aujourd'hui à 3 000 euros chacune avec sursis pour discrimination. Le tribunal correctionnel de Béthune dans le Pas-de-Calais leur reproche d'avoir refusé de vendre une maison à un couple d'origine algérienne en 2009 à Lens. Julian Assange fait à nouveau parler de lui. Le fondateur de Wikileaks a interviewé récemment Hassan Nasrallah. L'entretien réalisé en différé a été diffusé par une chaîne de télé russe en anglais, RT. À propos de la Syrie, le chef du mouvement chiite libanais Hezbollah affirme être entré en contact avec l'opposition pour favoriser le dialogue avec le pouvoir en place. Mais l'opposition a, dit-il, rejeté tout dialogue. Toujours concernant la Syrie, Alain Juppé réclame à nouveau aujourd'hui un renforcement des sanctions à l'égard du régime de Bachar el-Assad. Celles déjà prises, explique le ministre des Affaires étrangères, commencent à porter leurs fruits. De son côté, Ban Ki-moon exhorte aujourd'hui le gouvernement syrien à garantir une liberté totale de mouvement aux observateurs de l'ONU. Le secrétaire général de l'ONU suggère aussi que l'Union européenne fournisse des hélicoptères ou des avions à la mission de supervision du cessez-le-feu. En attendant sur le terrain, les combats, eux, continuent. Un record de froid en Moselle aujourd'hui en plein mois d'avril. Neige dans les Pyrénées étant glaciale en Auvergne. Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Mais la vague de froid qui s'est abattue en février sur la France a fait des dégâts aussi chez les agriculteurs. Selon l'Association Générale des Producteurs de Blé aujourd'hui, 600 000 hectares de blé, de colza et d'orge ont été détruits. En février, ils ont dû être ressemés. L'AGPB demande que le gouvernement déclare pour ces cultures l'état de catastrophe climatique. La compagnie espagnole Iberia annonce aujourd'hui la réduction de 20% de sa masse salariale chez les pilotes, soit une économie de 62 millions d'euros par an. Une annonce qui intervient en plein conflit des pilotes avec leur direction. Ils protestent contre la création de la filiale à Bakou, Iberia Express. Alberto Contador lui prépare son retour à la compétition. Ce sera pour le 6 août prochain avec le Tour du Benelux et ça correspondra avec la fin de sa sanction. Le coureur espagnol est sous le coup d'une suspension de 2 ans pour dopage. Après le Benelux, il prévoit aussi de courir la Vuelta, le Tour d'Espagne. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Dimanche, élection présidentielle, premier tour. La rédaction de France Inter se mobilise et vous propose une soirée spéciale.
Dès 18h30, les premiers enjeux.
Hélène Jouan.
Quelle participation pour ce premier tour de la présidentielle 2012.
Frédéric Barret.
Retrouvez Jean-François Aquili et ses éditorialistes.
20h, quel duel pour le second tour. Deux visages, deux noms que nous vous dévoilerons.
Directs et reportages, analyses et commentaires.
Et des débats avec nos invités. Joie et déception du soir, quelle consigne de vote, quelle dynamique pour le second tour.
Élection présidentielle. Premier tour.
Une soirée spéciale en partenariat avec France 2, Le Monde et Ipsos Logica Business Consulting.
À suivre sur France Inter, dimanche, à partir de 18h30.
Et suivez-nous aussi toute la journée sur franceinter.fr.
À dimanche.
France Inter. La différence.
Allez, je perds ma voix, mais je vous laisse la parole.
Mais pas le sourire, Laetitia, c'est ça qui est bien.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, grands chassés croisés, il y en a qui reviennent de vacances, d'autres qui y vont, puis comme il fait Mossad, par exemple, dans la région parisienne, on peut aller facilement dans le 21e arrondissement de Paris, c'est-à-dire Deauville, dont j'ai déjà parlé, mais en plus, nous avons reçu un disque, c'est une sorte de somme de certains concerts qui ont été donnés précédemment, et il n'y a pas que, évidemment, des vacances quand on va à ce festival de Pâques, la mer, bien sûr, très, très forte et très bonne pour nous, un bon air bien humide en ce moment, comme dans beaucoup d'endroits, mais surtout, c'est un endroit de rencontre, un moment où les jeunes musiciens peuvent jouer ensemble, former des couples, des trios, des quatuors, etc., etc., des duos, donc j'aurais dû dire peut-être, mais des couples, c'est arrivé aussi dans la vie, et tout ça n'est pas seulement amical, c'est vraiment à l'origine de beaucoup d'ensembles musicaux qui font carrière par la suite. Je citerai toujours Jérémy Rohrer, par exemple, chef d'orchestre qui a dirigé un ensemble qui est devenu le sien par la suite. Tout ça a eu lieu à Deauville. On me rappelle aussi que ça n'est pas snob, qu'il faut aller volontiers et venez comme vous êtes, comme dit une fameuse marque de nourriture fast-food, rapide à emporter. Et c'est gratuit pour les moins de 25 ans. Donc ce festival de Pâques, il recommence là le vendredi qui vient. Et puis il y aura encore jusqu'au 29 avril de quoi réjouir nos oreilles en ce qui concerne la musique de chambre, aussi bien à la salle Élie de Brignac qu'au théâtre du Casino. Et voilà, à tout près de Paris, et je citerai d'autres festivals, c'est le moment d'aller se balader et de rencontrer des musiciens qui se tiennent chaud par leur talent. Voici le scherzo d'un quintet pour piano et cordes de Sergueï Taneïev. Taneïev, qui est né à Saint-Pétersbourg en 1850, il a écrit 2 opéras, pas mal d'œuvres orchestrales, 3 symphonies de suite, et puis il a été pas mal inspiré de Rimsky-Korsakov, ça n'était pas un mauvais maître.